Le DAF est clair. Le DAF, c'est clair avec Torah Box et Ravishai Asayag.
Traité Betza, page 7, DAF Zain.
Bonjour à tous, c'est DAF est clair, Betza Zain. Celui qui fait la shkita d'une poule et qui trouve des œufs qui sont prêts à la consommation, on a le droit de les consommer avec du lait, on ne les considère pas comme de la viande. Bien qu'on le dit, mais si elles sont encore mélangées avec toutes sortes de guidines, toutes sortes de veines ou de nerfs, elles sont interdites puisqu'on les considère comme de la viande. Dans la Gemara, d'après qui va cet enseignement? Il est marqué que si jamais quelqu'un a consommé une carcasse d'un œuf, d'une volaille qui est Théora, normalement, quand on consomme cette carcasse, on devient tanné. Mais s'il a consommé des œufs qui sont encore attachés, ou des os, ou toutes sortes de guidines, ou alors de la viande qui a été arrachée quand l'œuf était vivant, il est tort, puisqu'on ne considère pas ça comme étant de la chair de l'animal. Par contre, s'il a consommé de la chair qui était à l'endroit où les œufs étaient attachés à leur mère, ou des gésiers, ou des intestins, ou alors il a fait fondre de la graisse et il l'a bu telle qu'elle, il est tamé, ça c'est considéré comme s'il a mangé du corps de l'animal. Donc d'après qui ça va? On dirait, mais ça ne peut pas aller d'après Rav Yaakov, parce que d'après Rav Yaakov, on considère que ces œufs sont comme de la viande. D'agman de la Gemara, peut-être que non, peut-être que ce que nous a dit Rav Yaakov, c'était comme la viande, c'est seulement au sujet de l'interdit de Bassar Bechalav, mais au sujet de Tuma, peut-être qu'on ne les a pas considérés comme de la viande. Et si tu vas me dire que pourquoi pas, on peut les considérer comme de la viande, c'est vrai, on peut, mais on ne cherche pas à développer et créer plus de Tuma. Autre lecture de cet échange de la Gemara, ce qui est marqué dans la fin de la Braïta, que celui qui a mangé, la Gemara avait compris au début, des œufs qui sont attachés, il est tamé, ça ne peut aller que d'après Ablézer Ben Yaakov. Répond Abaye qui t'a dit que quand on parle de Eshkol, on parle des œufs qui sont attachés. Peut-être qu'on parle de la chair qui est justement à l'endroit où ils sont attachés. Ah, si c'est comme ça, c'est quoi le chidouche? C'est comme le gésier. C'est quoi le chidouche du gésier? C'est sûr que c'est défini comme de la chair. Mais puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, ça n'est pas consommable, peut-être que ça n'aurait pas rendu impur la personne qui le consomme. Car ma chmalam, que ça le consent et que ça le rend impur. Autre sujet, la Gemara nous dit que tous ceux qui ont un rapport en journée, la naissance a lieu le jour, tous ceux qui ont un rapport la nuit, la naissance a lieu la nuit, tous ceux qui ont un rapport en journée ou en soirée, la naissance peut avoir dans l'un ou dans le jour ou la nuit. De quoi on parle? En journée, c'est le coq, la nuit, c'est une chauve-souris, celui qui a un rapport le jour et la nuit, on parle d'un homme et de toutes les autres choses qui ont un rapport le jour et la nuit. Quel est l'intérêt de cet enseignement? On dit pour la Gemara par rapport à ce que Rav Marie Barakana nous a enseigné, si jamais il a vérifié une poule et il a vu qu'elle n'avait pas d'œuf. Et le lendemain, avant le lever du jour, il vérifie et il voit qu'il y a un œuf. Donc, puisque je sais que cet œuf est forcément né en journée et qu'il n'a pas pu naître pendant la nuit, donc il est né avant Yom Tov. Dagmar, oui, mais comment il est né avant Yom Tov? Tu vois bien qu'il a vérifié. Dagmar nous dit peut-être qu'il a mal vérifié et que l'œuf était déjà là-bas. Et même s'il a bien vérifié, peut-être que l'œuf était déjà sorti et qu'il est rentré dans le corps de l'animal. Et comme nous avait dit Rabbi Yochanan, à partir du moment où la majeure partie de l'œuf est sortie, c'est considéré comme s'il était né. Et donc, l'œuf est considéré comme s'il était né avant Yom Tov et donc il serait permis, demande la Gemara. Mais pourtant, on a le même enseignement au nom de Rabbi Yossi ben Shaul et lui dit juste le contraire. On considère que l'œuf est interdit parce qu'on considère qu'il est né pendant la nuit. La Gemara nous dit non, mais là-bas tu sais pourquoi? Parce que là-bas on ne parle pas d'une poule qui a eu un rapport avec un coq, on parle d'une poule qui s'est réchauffée avec la terre. Mais la Gemara, oui, mais si c'est possible de se réchauffer avec la terre, alors dans l'autre cas aussi, et donc peut-être qu'il est né pendant la nuit. Je dis la Gemara, non, mais chez nous il y a un coq. Oui, mais alors, ça veut pas dire que s'il y a un coq, forcément il y a un rapport avec le coq. Il répond la Gemara, si. On sait très bien que s'il y a un coq, forcément, il y a un rapport avec le coq. Qu'est-ce que ça veut dire s'il y a un coq? Tant qu'elle entend la voix du coq, tant qu'elle est à une distance où elle peut entendre la voix du coq, on les considère ensemble. Rav Marie a une fois permis un œuf, sachant qu'il y avait un coq qui était à une distance de 60 maisons. Si jamais, dans une distance jusqu'à 60 maisons, il y a un fleuve qui sépare, donc la poule elle ne peut pas passer, donc on ne les considère pas ensemble. S'il y a un pont, on les considère ensemble. Et s'il y a un pont qui est très étroit, puisqu'elle ne peut pas passer, on ne les considère pas ensemble. Mais la Gemara nous dit, une fois on a vu qu'une poule est passée même sur un pont qui était très étroit. Demande la Gemara, dans le cas où c'est interdit, tu m'as dit pourquoi? Parce qu'il y avait un rapport, parce qu'elle n'avait pas de rapport, parce qu'elle s'est réchauffée avec la terre. Alors pourquoi tu me dis que c'est interdit? Seulement s'il a vérifié. Même s'il n'avait pas vérifié, je devrais supposer qu'il est né pendant la nuit. Je dis la Gemara, non. Parce que si je n'ai pas vérifié, je peux m'appuyer sur la majorité qui fait en fait qu'en général, les œufs naissent en journée. Donc si je n'ai pas vérifié, je peux m'appuyer sur le Rav qui dit qu'il est né à la veille de Yom Tov. La Gemara dit, mais peut-être que si c'est comme ça, s'il y a une majorité, alors peut-être que l'œuf était déjà né avant, et même quand il a vérifié, et tout simplement il est rentré encore une fois, comme on l'a vu d'après Rabbi Yochanan. La Gemara nous dit, mais ce cas-là, de dire qu'il est sorti, qu'il est rentré, c'est quelque chose de pas fréquent. Donc s'il a vérifié qu'il n'a pas vu d'œuf, je ne vais pas m'appuyer sur la majorité pour dire la majorité naît en journée et m'appuyer sur quelque chose qui est pas du tout fréquent et de dire, mais il est né en journée, il est rentré, ça c'est pas du tout fréquent. Autre chose qu'on nous a enseigné Rabbi Yossi ben Shaul, de l'ail qui est écrasé, s'il est découvert, c'est dangereux, puisque Un serpent peut venir goûter et laisser du venin, donc on n'a pas le droit de le consommer. Marchloquel Bet Shammai Bet Hillel, Seor d'après Bet Shammai est interdit à partir de Kazaït, alors que Chametz seulement de Kakotevet. Pour quelle raison Bet Shammai est interdit? On fait une différence, puisque dans le passage qui a marqué Seor, Chametz et Seor, en vérité on n'avait pas besoin de marquer les deux. Pourquoi est-ce qu'on a marqué les deux? Pour nous dire qu'ils ont une mesure qui est différente. Bet Hillel nous dit non, c'est pas vrai, on avait besoin de marquer les deux. Si on avait marqué que Seor, on aurait dit que pourquoi est-ce que c'est interdit? Parce que Chimout se cachait, parce qu'il a la capacité de rendre les autres Chametz. Mais Chametz lui-même, qui n'a pas la possibilité de rendre d'autres choses Chametz, peut-être que j'aurais dit qu'il est permis. Et si j'avais dit que Chametz, j'aurais dit que, puisqu'il est consommable, c'est pour ça que à partir d'un Kazaït, mais du Seor qui n'est pas consommable, peut-être que c'est seulement à partir de Kakotevet. C'est pour ça qu'on avait besoin de nous enseigner le Chametz et le Seor pour nous dire qu'ils ont la même mesure. Demande la Gemara sur Bet Shammai. Mais Rabbi Zaha nous a dit quelque chose de très logique. Dans le passage, c'est marqué Seor lo yimatse be'atechem, kol ochel machmetzet. On utilise deux termes différents, Seor et Chametz, dans le même passage, justement pour nous dire qu'ils sont à égalité. Comment Bet Shammai vont répondre à cette logique dans ce passouk? On va nous dire, mais ce passouk qui parle de consommation. Et au sujet de consommation, il n'y a pas de marloquette. Tout le monde, d'accord, tout le monde est d'accord qu'ils sont à égalité. La marloquette, elle est au sujet de la possession. On a une braïta où c'est marqué clairement, au nom de Rabbi Yossi Bar Chanina, que la marloquette, elle est seulement au sujet de la possession, mais pas au sujet de la consommation. On a une autre braïta où il y a marqué que dans le passouk, c'est marqué Loïe al-Khachamet, ou alors al-Khaseor. C'est justement à ce sujet de Loïe al-Khaseor, c'est-à-dire la possession, qu'il y a marloquette. La Gemara nous ramène la troisième étape de la Mishnah, celui qui fait la Shrita pendant Yom Tov. Bet Shammai, il fait peu, d'après Bet Shammai, il peut creuser pour qu'il soit Adam. D'après Bet Hillel, il ne peut pas creuser. Nous dit la Gemara, puisque dans la Mishnah c'est marqué Ashochet, c'est-à-dire que c'est seulement après la Shrita qu'on se pose la question. Mais les Khatrila, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de faire la Shrita. Et pourtant, dans les paroles de Bet Hillel, il est marqué, il n'a pas le droit de faire la Shrita, seulement s'il avait déjà du Afar qui est prêt. Ça veut dire que d'après Tanakama, il a le droit de faire la Shrita, les Khatrila. Donc dans les paroles de Bet Shammai, on comprend que les Khatrila n'ont pas le droit. Dans les paroles de Bet Hillel, on comprend que Bet Shammai permet même les Khatrila. L'Agmara nous dit non, Béhémet la Marloquette, elle est seulement Bédiavad. Et ce que Bet Hillel nous ont dit, Bédiavad, n'ont pas dit qu'on n'a pas le droit de faire la Shrita. On n'a pas le droit de faire ni la Shrita, ni le Kisuyadam. Nous dit l'Agmara, mais si tu regardes ici, tu expliques comme ça, comment est-ce que tu vas t'arranger avec la fin de la Mishnah, où il est marqué que tout le monde est d'accord que s'il a fait la Shrita, on peut faire Kisuyadam. Donc d'après tout le monde, s'il a fait la Shrita, Kisuyadam, c'est possible. Donc la Marloquette du départ, forcément, elle est autre chose. Béhémet l'Agmara nous dit, la marloquette du départ, elle est, est-ce que les Khatrila, on a le droit de faire la Shrita? Mais s'il a fait la Shrita, d'après tout le monde, c'est le moutard de faire Kisuyadam. On a à ce sujet deux explications. Rabban nous dit que s'il vient nous demander s'il a le droit de faire la Shrita, on lui dit, va faire la Shrita et après va chercher de la terre pour faire Kisuyadam. Bet Hillel dit, on n'a pas le droit de faire la Shrita, les Khatrila. Rabban Sef nous dit, on a le droit de faire la Shrita. Et on va lui dire, si tu as de la terre qui est déjà prête pour la première couche de Kisuyadam, tu peux faire la Shrita. Donc l'Agmara essaie d'expliquer la marloquette à Rabbi Yosef. L'Agmara nous dit qu'Abaye a dit peut-être que vous êtes en marloquette au sujet du chidouche de Rabbi Zera. Rabbi Zera nous a dit que Kisuy Adam, c'est pas simplement mettre de la terre sur le sang. Il faut avoir deux couches de terre, au-dessus et en dessous. Et donc peut-être que la marloquette de Rabbi Yosef, c'est justement à ce sujet. Celui qui dit qu'il faut lui dire d'abord va chercher de la terre et après fais la shrita, c'est parce qu'il pense qu'il faut une couche inférieure. Celui qui dit fais la shrita et après va chercher de la terre parce qu'il pense qu'on se suffit d'une couche supérieure. Lui a répondu Rabat, non, on est tous d'accord qu'il faut une couche inférieure et une couche supérieure. Mais Rabat pense que s'il a déjà une couche inférieure, on lui permet. Sinon, non, pourquoi? Parce qu'il va aller chercher la couche inférieure, il va faire la shrita, et après il va décider de ne pas faire la shrita, pardon. Et donc il aurait déplacé de la terre pour rien, donc c'est pour ça qu'on lui dit, si tu as déjà de la terre pour la couche inférieure, tu peux aller faire la shrita, et sinon, non. Mais moi, je pense que même s'il n'a pas de terre pour la couche inférieure, on va lui dire, va prendre cette couche inférieure et fais la shrita, parce que si on lui interdit, on l'empêchera de Simchat Yom Tov. La fin de la Mishnah, c'est marqué que si jamais il a fait la shrita, il peut aller être chofer, il peut aller creuser de la terre pour Kisuy Adam. Nous dire à Bizreka, attention, quand on te dit qu'il peut le faire, c'est seulement dans un cas où il avait une pelle qui était déjà enfoncée dans le sol, ce qui fait que la terre n'est pas définie, quand il va ramasser cette terre, ça n'est pas défini comme labourée, puisque la terre était déjà séparée de la terre, de l'autre partie de la terre, et puis ça n'est pas défini comme ouktsé, puisque à travers le fait que j'ai planté une pelle dans le sol, j'ai préparé cette terre. Donc en vérité, j'ai évité les problèmes Minatora et Miderabanan à travers le fait que la terre était déjà, que la pelle était déjà enfoncée dans le sol. Demande la Gemara, mais il y a un autre problème. Il y a le problème de Ktisha, il doit écraser cette terre. Comment est-ce qu'il peut écraser cette terre? C'est interdit Minatora Mishum Tochen. Répond la Gemara, on parle d'un cas où la terre est meule. Et bien que la terre est meule, la Gemara va poser la question, mais si c'est comme ça, il y a quand même un interdit de faire un trou, il y a quand même un interdit de bonnet. Répond la Gemara, On parle d'un cas, puisqu'il n'est pas intéressé par le trou, il est simplement intéressé par la terre, donc il n'y a pas de melacha chez Enlatzraling. Il n'y a pas de bonnet, puisqu'il n'est pas intéressé par le trou qu'il a créé. On peut avoir un trou dans une terre qui est meule quand tout autour c'est solide et quand à l'intérieur c'est une terre qui est complètement écrasée. Pourquoi est-ce que d'après Beth Hillel c'est interdit puisqu'on voit qu'il n'y a pas de problème, nous expliquera Rachid plus tard, hein, qu'on a peur que quand il va creuser aussi de la terre qui est solide et là il y aura des interdits qui sont minatoires. On va résumer rapidement ce qu'on a vu. La première chose qu'on a vu, c'est la marque locale de Rabbi Eliezer ben Yaakov avec Tanakama. Est-ce qu'un œuf qui est encore attaché au corps de la mère avec toutes sortes de veines, est-ce qu'il est défini comme de la viande ou pas? Au sujet de Bassa Bechalav, il est défini comme de la viande. Au sujet de Touma et Tahara, on a dit que ce n'était pas forcément, même d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, peut-être qu'il n'était pas défini comme de la viande. Un œuf, une poule qui vit dans les quartiers où il y a un coq, on considère qu'elle a eu un rapport avec le coq, et donc l'œuf est forcément né en journée. Donc même si j'ai vérifié la poule, je considère qu'il est né à la veille de Yom Tov, et donc il est permis pour Yom Tov. Par contre, s'il n'y a pas de coq dans le coin, ou alors même s'il y a un coq, mais il ne peut pas passer, je considère qu'il est né par le fait qu'elle s'est réchauffée avec la terre, donc il est né pendant la nuit, et donc il est interdit de le consommer pour Yom Tov, sauf si je n'ai pas vérifié. Donc là, je vais aller d'après la majorité des poules qui ont des œufs pendant la journée. Marloquel, Beth Shammai et Beth Hillel, au sujet de Seor, au sujet de Hametz, est-ce que c'est Kokotevet ou pas? On parle de possession, mais de consommation, tout le monde est d'accord que c'est Kazaït. Marloquel, Beth Shammai et Beth Hillel, est-ce que les Khatrila, on lui permet de faire la Shrita parmi Yom Tov quand il n'a pas de quoi faire Kisui Adam? Mais s'il a fait la Shrita, d'après tout le monde, on peut faire Kisui Adam. Quand on dit qu'on peut faire Kisui Adam, on parle d'un cas où la pelle était déjà plantée, et donc il n'y aura pas d'interdit ni d'Oretan ni d'Herbanan, et pourtant les Khatrila Beth Hillel vont interdire. Tout le monde est d'accord que Kisui Adam, on doit mettre une couche supérieure et une couche inférieure. Et ce qu'on lui a demandé d'après Beth Shammai, Marloket et Moraim, est-ce qu'il faut qu'il ait déjà de la terre pour la couche inférieure ou pas? C'est une Marloket, est-ce qu'on préfère ne pas prendre de risque qu'il transgresse l'interdit de Yom Tov, ou on préfère lui permettre et prendre le risque? De peur que si on soit trop marmur, au final, il ne pourra pas avoir la simcha d'Yom Tov. Le daf est clair, Baruch HaShem, mais demain, Bezrat HaShem.